VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec en direct de Washington DC. Il est 19h30, temps universel, le monde aujourd'hui, édition du vendredi 19 janvier 2018. Au sommaire ce soir, République démocratique du Congo, l'armée a dû repousser de fortes offensives de miliciens Yakutumba et ADF dans le nord et le sud Kivu. Au Mali, des gendarmes qui avaient abandonné leur poste dans le cercle de Niono ont été arrêtés. Nikki Haley, ambassadrice américaine à l'ONU, a reçu ses homologues africains suite aux propos attribués à Donald Trump sur l'immigration. Et ici à Washington, le Sénat a jusqu'à minuit pour voter le budget, sinon l'administration fédérale sera fermée. Dans une dizaine de minutes, notre rendez-vous économique et les sports, mais d'abord le journal. République démocratique du Congo, l'armée a dû repousser des offensives de miliciens. Un convoi a été pris dans une embuscade tendue par la milice Yakutumba dans le territoire de Fidji, dans le sud Kivu. Et au nord Kivu, deux positions de l'armée ont été attaquées par de présumés rebelles musulmans ougandais, des ADF. Les combats sont en cours selon l'armée. Épidémie de choléra à Kinshasa, le gouvernement compte 803 cas suspects et 32 décès depuis le 25 novembre. Au Mali, 50 gendarmes ont abandonné leur poste dans la région de Ségou. Dès leur arrivée à Bamako, ils ont été désarmés, arrêtés, puis mis à la disposition de la police militaire. Sur place, notre correspondant Kassim Traoré.
Certains parlent d'une tentative de mutinerie échouée, mais la hiérarchie militaire malienne dénonce un abandon du poste. Ils sont au total 50 gendarmes maliens à leur arrivée à Bamako en provenance du théâtre d'opération comme Gomakura et Diabali dans la région de Ségou. Ils ont été mis aux arrêts parce qu'ils sont arrivés sans informer leur hiérarchie. En effet, ces gendarmes avaient été missionnés pour une semaine. Ce délai a été prorogé à 3 mois pour nécessité de service. Durant leur maintien sur le théâtre d'opération, ces gendarmes, selon leur famille, n'ont pas reçu de salaire et vivaient à leur propre charge. En plus, ils ont participé à la présélection d'un examen de certificat interarmes effectué sur place dans leur secteur d'affectation. Ceux qui ont été admis à cette présélection devraient être autorisés à se rendre à Bamako, centre unique pour l'examen final. En tout cas, cet acte se passe au moment où les FAMA s'apprêtaient à lancer une vaste opération contre les djihadistes au centre du pays. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Dans le sud du Niger, au moins 5 soldats ont été tués à Toumour, dans la région de Diffa, une attaque attribuée à Boko Haram. Au Nigeria, des combattants de Boko Haram ont tué 5 personnes dans un village de l'état d'Adamawa, dans le nord-est du pays. En Casamance, dans le sud du Sénégal, 16 des 22 suspects arrêtés ont été déférés au parquet. Les charges retenues contre eux sont association de malfaiteurs, assassinat, participation à un mouvement insurrectionnel et détention d'armes sans autorisation. 6 autres ont été libérés. Ils avaient été arrêtés le 14 janvier dans l'enquête sur ce massacre. Le 6 janvier, de 14 jeunes coupeurs de bois dans la forêt protégée de Bayotte. En Guinée, après plus de 10 ans d'attente, les électeurs vont élire les conseillers à la tête des communes. La campagne s'ouvre aujourd'hui. Un peu plus de 5 millions de Guinéens sont appelés à voter le 4 février. Zakaria Camara.
Selon l'article 38 du Code électoral révisé, la campagne électorale pour les communales doit durer 15 jours francs. Elle doit donc démarrer dans quelques heures, exactement à minuit, pour un scrutin très attendu. Après 12 ans, les Guinéens vont enfin renouveler les conseillers municipaux le 4 février dans 342 circonscriptions électorales que compte le pays. 5 millions d'électeurs guinéens sont appelés aux urnes dans 15 573 bureaux de vote et 30 000 candidatures sont enregistrées. Le nombre de conseillers à élire dépend de la taille des habitants de la collectivité, c'est-à-dire de la plus petite à la plus grande. Par exemple, 11 conseillers pour les communes ayant jusqu'à 10 000 habitants ou encore 45 conseillers pour les communes ayant plus de 200 000 habitants. Une fois élus, les conseillers remplaceront les délégations spéciales à la tête des communes installées depuis l'arrivée au pouvoir du président Alpha Condé. Ces élections communales seront un autre test pour le président guinéen et son parti, le RPG Arc-en-Ciel, après sa victoire aux élections législatives de 2013. Ce scrutin sera très disputé parce que, pour la première fois, les candidatures indépendantes sont autorisées. Zakaria Camara, Conakry, VOA Afrique.
Et les troupes somaliennes ont secouru 32 enfants dans un camp d'entraînement des Chebab qui les avaient enlevés, Abdourahmane Dia.
Le ministre somalien de l'Information a indiqué que les 32 enfants qui étaient dans une école du groupe djihadiste Al-Shabaab se portent bien. Selon Abdourahim Omar Osman, il est regrettable que les terroristes recrutent des enfants pour leur inculquer leur idéologie tordue. Cela montre qu'ils sont désespérés et que les populations ont rejeté le terrorisme. Selon la version d'Al-Shabaab, les forces gouvernementales, avec l'aide de 4 drones, ont attaqué une école secondaire dans la région du Chabélé central, tuant 4 élèves et un enseignant. Mais le gouvernement somalien a précisé qu'aucun enfant n'a perdu la vie dans cette opération. Abdelaziz Abou Moussab, un porte-parole de l'armée, a indiqué qu'il s'agit d'enfants kidnappés qui ont été secourus. Dans un rapport publié cette semaine, Human Rights Watch a indiqué qu'Al-Shabaab a ordonné depuis septembre aux villageois dans des zones rurales et aux enseignants des écoles coraniques de leur remettre des centaines d'enfants. Les plus jeunes sont âgés de 8 ans selon l'organisation basée à New York.
Au Zimbabwe, le président Emmerson Mnangagwa assure vouloir la présence d'observateurs étrangers lors des élections présidentielles et législatives qui doivent se tenir dans son pays cette année.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, l'administration fédérale court le risque d'une paralysie si le budget n'est pas approuvé au Sénat aujourd'hui, avant minuit. Le président Donald Trump a mis la pression sur les sénateurs démocrates avant le vote qui s'annonce très serré. Le point avec Dilly Dico.
Donald Trump a tweeté ce matin « La loi de financement du projet a été approuvée la nuit dernière à la Chambre des représentants. Maintenant, on a besoin des démocrates pour qu'elle soit approuvée au Sénat. Mais ils souhaitent l'immigration clandestine et des frontières faibles. » La Chambre a voté hier soir une extension du budget pour 4 semaines jusqu'au 16 février. Le Sénat doit se prononcer à son tour d'ici minuit. Un shutdown va-t-il se produire? S'est interrogé Donald Trump sur Twitter. Si cela arrive, ce serait le premier depuis octobre 2013, lorsque des centaines de milliers de fonctionnaires américains s'étaient retrouvés en chômage technique pendant plus de 2 semaines. Le président de la Chambre des représentants, Paul Ryan, s'est aussi exprimé sur Twitter pour appeler les démocrates à voter le texte. Il a ajouté que le peuple américain, en particulier les hommes et les femmes en uniforme, mérite mieux qu'une fermeture du gouvernement.
La France et la Grande-Bretagne ont signé hier un traité qui vise à améliorer la gestion technique opérationnelle de leurs frontières communes. Et Kabadou nous en dit plus.
D'abord réfractaire, Londres a promis une enveloppe supplémentaire de 50,5 millions d'euros pour contribuer à un meilleur contrôle des migrants sur le sol français. Paris et Londres estiment que la relation bilatérale ne doit pas être affaiblie malgré le Brexit. Le traité de Sandhurst, signé par les deux pays, complète les accords du Touquet de 2004. Ceux-ci n'étaient pas parvenus à contrôler le flux continu de candidats à l'immigration au Royaume-Uni. Ce nouvel accord a pour finalité d'accélérer la gestion de l'accueil des migrants au Royaume-Uni. Les délais passeront de 6 mois à 30 jours pour les personnes majeures et de 6 mois à 25 jours pour les mineurs non accompagnés qui ont de la famille en Grande-Bretagne, a affirmé le président français lors d'une conférence de presse avec le Premier ministre britannique. Ce renforcement des relations franco-britanniques s'est également concrétisé dans le secteur de la défense, avec la mise à disposition par le Royaume-Uni d'hélicoptères lourds pour appuyer les opérations françaises au Sahel.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. La Minute Éco avec Eric Manirakiza.
Au Niger, 3 pauvres sur 5 sont des femmes, qui représentent plus de la moitié des 20 millions d'habitants. D'après des ONG locales, 75% d'entre elles n'ont jamais eu accès à des formations. Un centre dédié à la promotion de l'entrepreneuriat féminin appelé l'Oasis entend former 10 000 femmes dans les 3 prochaines années. Le secteur du tourisme se lance dans les nouvelles technologies. Un hôtel du futur sans réceptionniste, muni d'un miroir de reconnaissance faciale, sera présenté cette semaine à Madrid. La chambre sera personnalisée au goût du client. Par exemple, le matelas sera équipé de capteurs pour enregistrer les moindres mouvements du dormeur et permettre éventuellement à l'hôtelier de lui proposer son café à son réveil le matin. Le géant des boissons non alcoolisées Coca-Cola multiplie ses efforts pour rendre ses emballages 100% recyclables dans le monde d'ici 2030. Le limonadier investira aussi des millions de dollars pour éduquer et sensibiliser les consommateurs sur les déchets plastiques qui polluent les océans.
Et on enchaîne sur les sports avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Chan 2018 au Maroc, les matchs du groupe C.
Le Rwanda qui affronte la Guinée équatoriale depuis 19h30, temps universel. Pour le moment 0-0 entre les deux équipes. Un peu plus tôt, le Nigeria s'est relancé après avoir battu la Libye 1-0. Fayele est buteur pour les Nigérians en deuxième mi-temps. Le Nigeria devient leader du groupe avec 4 points devant la Libye 3 points, suivi du Rwanda 1 point et la Guinée équatoriale. Équatorial, 0 point.
Hier, la Côte d'Ivoire a été éliminée.
Les éléphants locaux n'ont pas su rester dans la course à la qualification à Marrakech face à la Zambie. Les Ivoiriens ont sombré, 2-0, deuxième défaite en deux matchs. Moulenga, le bourreau des Ivoiriens, auteur d'un doublé dans ce match. La Zambie s'est donc qualifiée pour les quarts de finale, tout comme la Namibie, vainqueur 1-0 de l'Ouganda, qui est éliminée du Chan, tout comme les Ivoiriens.
Place au groupe D demain.
Les Lions indomptables du Cameroun devront se racheter après leur faux pas du premier match. Un adversaire coriace se dresse devant eux, l'Angola. Et le Congo, leader surprise de ce groupe, jouera contre le Burkina Faso, bien décidé à passer ce premier tour. On fait le point au Maroc avec Amine Birouk pour VOA Afrique.
C'est l'heure de vérité pour les étalons. Ce samedi à Agadir, les joueurs du Burkina Faso doivent impérativement dominer leurs homologues du Congo s'ils désirent poursuivre l'aventure dans ce Chan 2018. Surtout après le nul qu'ils ont concédé 0-0 devant l'Angola mardi dernier. En face, les Diables Rouges du Congo surfent dans une dynamique positive. Leur victoire devant le Cameroun 1-0 est un succès qui a dopé la confiance des hommes de Barthélémy Ngatsonou. Les Congolais peuvent s'appuyer sur la créativité de leurs joueurs du milieu de terrain et la solidité de leur défense. Deux atouts qui permettraient en cas de succès au Congo de passer en quart de finale et transformeraient les Diables Rouges en outsiders de la compétition. Depuis Tanger au Maroc, Amine Birouk pour VO Afrique.
Le cyclisme tropical Amissa Bongo.
Avant Morgan, on va quand même parler du Soudan qui reste au Chan. Alors que la Guinée avait déposé un recours pour disqualifier un joueur soudanais qui s'était engagé au Mercato avec un club libyen, eh bien la Confédération africaine de football a jugé cette demande irrecevable. Dans le groupe A, le Maroc et le Soudan restent qualifiés pour les quarts de finale et la Guinée et la Mauritanie sont éliminés.
Alors cette fois, on parle bien de la tropicale Amissa Bongo.
Allez, cette fois c'est la bonne. L'Australien Brendan Jones de Delco Marseille est arrivé en tête de la cinquième étape de cette course qui se déroule au Gabon après 141 km de course entre Oyem et Ambam. Déjà vainqueur de la deuxième étape, Brendan Jones a battu l'Algérien Reguigui et l'Italien Nocentini lors de la montée finale. C'est le Rwandais Joseph Arteruya qui est toujours en tête au classement général. La sixième étape, 107 km demain entre Bitam et Oyem et l'arrivée de cette course ce sera dimanche à Libreville.
Championnat de basket nord-américain, Embiid dans la cour des grands.
Eh oui, il participera au All-Star Game 2018 qui aura lieu le 18 février prochain au Staples Center de Los Angeles. Ainsi en ont décidé les fans, les médias et les joueurs qui participaient au vote. Joel Embiid a donc décroché sa première sélection All-Star Game à l'âge de 23 ans. Le pivot camerounais de Philadelphie est le premier joueur des Sixers titulaire au All-Star Game depuis Allen Iverson en 2006.
Et Rihanna.
Alors justement, pour l'anecdote, c'est vrai qu'il avait demandé un rendez-vous galant avec la chanteuse il y a 4 ans, ouais. Et elle lui avait dit à l'époque écoute, quand tu seras All-Star Game, pourquoi pas. Et bien voilà, 4 ans après, il a retweeté hier soir après sa nomination et on attend la réponse de la chanteuse américaine.
Et les résultats de la nuit avec vous quand même.
Les retours sur les parquets. Cleveland a stoppé l'hémorragie contre Orlando 104-103, mais n'a pas rassuré ses supporters alors que Philadelphie s'est imposé 89-80 sur le terrain du leader de la conférence Est Boston. Et Joel Embiid encore lui, tout émoustillé par son nouveau rendez-vous avec Rihanna potentiellement. Il a marqué 26 points, il a capté 16 rebonds. C'est son 19e double-double de la saison. Un dernier résultat, la star de Houston, James Harden, a rejoué après 3 semaines et a permis à son équipe de battre Minnesota 116-98.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guiriec, deuxième partie d'émission, les dossiers du jour. Au Sénégal, des affrontements entre la police nationale et des étudiants en grève ont abouti hier à un incendie au sein du campus social de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les étudiants réclament le paiement des arriérés, des bourses et un accompagnement financier pour leurs camarades en Master 2. Yacouba Ouédraogo a joint Diène Gom, président de l'Amicale des écoles et instituts de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar.
Depuis le début de l'année, les étudiants n'ont pas reçu, pour certains, le rappel du début d'année, le paiement du mois de janvier. Pour les étudiants en master 2, ils doivent avoir un accompagnement et pour certains même, le rappel du début de l'année. La question revient à une question de paiement de bourse. Alors, je pense que nous sommes le 19. Les bourses devraient être payées bien avant le 8. Et depuis lors, nous attendons. Il n'y a pas eu, ne fait pas une communication pour nous dire que voilà ce qui s'est passé, ni paiement. Les étudiants qui ne savaient pas où donner la tête se sont dit mais il faut qu'on se fasse entendre pour pouvoir entrer dans leur sens.
Depuis quand a commencé votre grève?
La grève a commencé il y a deux semaines de cela ou bien trois. Mais c'est hier que les choses se sont intensifiées.
Vous le disiez tantôt, c'est hier que les choses se sont véritablement envenimées. Il y a eu même incendie dans un des pavillons à l'université là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est Bernard Lafamoisine qui a provoqué une explosion dans cette chambre. Et que, à l'heure où je vous parle, personne ne peut plus loger dans cette chambre qui a été totalement réduite en cendres.
Vous disiez tantôt que le gouvernement n'a pas communiqué sur ce non-paiement des bourses, c'est pourquoi vous êtes en grève. Est-ce qu'il y a eu un début de solutionnement à vos revendications?
À l'heure où on vous parle, on ne peut rien confirmer. Selon certains, le paiement sera effectif aujourd'hui, ce qu'on ne peut pas affirmer parce que jusque-là, on n'a rien vu et voilà. Et à l'heure où je vous parle, même les étudiants sont en train de s'affronter avec les éléments du groupement mobile d'intervention.
Pourquoi?
Oui, pour la même cause.
Jusque-là, vous n'avez pas engagé des négociations avec le gouvernement ou le gouvernement n'a pas engagé des négociations avec vous?
Alors, je vous parle, je n'ai pas eu écho de ces négociations-là et voilà, je ne serai affirmé pas. Vous savez, l'université Saint-Bégin de Dakar a au moins quatre amicales légales, à savoir l'amicale de la faculté de médecine, l'amicale de la faculté de sciences juridiques et politiques, l'amicale de la faculté de sciences et techniques. Nous travaillons en parfaite synergie, l'ensemble de ces amicales-là. On n'a pas encore fait écho d'une négociation.
Est-ce que la grève a lieu dans toutes les universités à Dakar ou c'est seulement l'université Cheikh Anta Diop?
Non, pour les autres universités, je ne serai affirmé. Mais tout ce que je sais, c'est qu'actuellement, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, cette grève existe.
Et jusqu'où irez-vous?
C'est pas nouveau, le fait de réclamer les bourses avec la même méthode forte, à savoir investir l'avenir Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est tout ce que nous avons sans besoin, nous, qui manifesté pour pouvoir entrer.
Voilà, c'était Diène Gom, joint à Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
L'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, a organisé une rencontre à huis clos avec des ambassadeurs africains en exprimant ses regrets sur la situation après les propos polémiques attribués à Donald Trump sur l'immigration. Écoutons l'analyse de René Leek, consultant politique au micro de Raïssa Girondin.
D'un côté, on dit que la Maison-Blanche, certains caciques de la Maison-Blanche, activistes politiques de la coalition Trump étaient particulièrement contents de ce qui s'était passé parce que ça a galvanisé un peu la base de Trump. Mais d'un autre côté aussi, on a l'impression qu'ils ont été peut-être un peu surpris par la réaction très négative. Et je crois que cette initiative de Nikki Haley rentre un peu dans le sens d'un peu de damage control, comme on dirait ici.
Mais est-ce que vous pensez que ça peut avoir une influence sur la politique américaine en Afrique?
Oh, je ne sais pas, je ne suis pas persuadé de cela. Vous savez, la politique américaine en Afrique, elle est quand même décidée ici à Washington par des considérations d'abord de politique intérieure. Même la géopolitique, elle est définie, elle est souvent marquée par le saut des grandes tendances, des grands enjeux de politique intérieure. Je ne crois pas qu'une question comme ça soit une question centrale et va avoir le moindre effet sur l'attitude de Trump vis-à-vis de l'Afrique. Ce type de propos, c'est essentiellement lié à des questions de politique intérieure.
Donald Trump, il est dans une mobilisation permanente des troupes les plus extrêmes de la coalition qui le soutient. Et je crois que c'était ça l'intention au moment où il a tenu de tels propos. L'objectif final, l'audience, c'est sa base ici aux États-Unis.
René Leic, consultant politique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le Sénat américain a repris ses débats sur un projet de budget partiel adopté jeudi soir par la Chambre des représentants en vue de continuer à financer le gouvernement fédéral. Les tiraillements se poursuivent au Congrès où les législateurs défendent des intérêts politiques divergents. Les précisions de Timothée Donangmaï.
Il faut dire, Morgane, que le budget 2017 expire ce soir à minuit. Les législateurs ont donc deux options, soit adopter une rallonge budgétaire d'un mois, ce qui permettrait de maintenir le gouvernement fédéral en activité, en attendant de négocier un budget en bonne et due forme pour 2018, ou alors laisser le budget actuel expirer et donc fermer le gouvernement fédéral jusqu'à ce que le Congrès s'entende sur un budget l'année fiscale s'achevant le 30 septembre prochain. Le danger dans ce dernier cas de figure est que l'on ne sait pas combien de temps prendraient les discussions et c'est toujours un grand risque politique, Morgan.
Et où se situent les principaux points de divergence?
Alors, pour que la mesure adoptée par la Chambre des représentants passe au Sénat, il faudra au moins 60 votes et les Républicains, qui sont majoritaires avec 51 sièges, ont besoin des sénateurs démocrates pour faire passer cette mesure. La principale pierre d'achoppement est la question des Dreamers. Ce sont ces quelques 690 000 personnes amenées aux États-Unis en bas âge et dont la situation vis-à-vis de l'immigration n'est pas réglée. L'administration Obama avait pris une mesure temporaire pour les protéger contre l'expulsion en attendant qu'une solution soit trouvée. Les démocrates exigent que toute solution budgétaire comprenne une régularisation de la situation de ces Dreamers. Les républicains sont en général d'accord, mais le président Trump exige le financement d'un mur le long de la frontière avec le Mexique, ce qu'il avait promis durant la campagne électorale, et les démocrates rejettent cette idée. Autre difficulté, le programme d'assurance maladie pour les enfants pauvres. Le président Trump s'oppose à une mesure prolongeant de 6 ans cette assurance, alors que les démocrates la soutiennent. Certains républicains y sont favorables, pensant que cela convaincrait les démocrates à voter en faveur du budget temporaire. Il se trouve aussi, Morgan, que la rallonge du budget en cours d'examen n'inclut pas de protection pour les Dreamers et sa disposition concernant l'assurance des enfants pauvres est en deçà des attentes des démocrates. En outre, certains républicains jugent que ce projet ne prévoit pas suffisamment de fonds pour l'armée américaine.
Alors, faute de compromis, le gouvernement fédéral sera fermé à minuit. Qu'est-ce que cela signifie?
Cela veut dire que tous les services gouvernementaux cesseront de fonctionner, à l'exception des services essentiels comme la sécurité nationale, la défense et certaines agences fédérales. De nombreux fonctionnaires resteront alors à la maison, comme ce fut le cas en 2013, où ils avaient été placés en chômage technique pendant 16 jours, Morgan.
Merci, Timothée Donangmaï.
Salut les amis, c'est Roger Montou sur VO Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique de Caraïbes. Soca, Zouk, Reggae, Salsa. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live. VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel. Sur VOA Afrique, Peace Africa!
Voilà, c'était histoire de se quitter en musique. Fatih Kouyaté, Sambe Sambe. C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Lionel Gaïma. Présentation, Morgane Guiriec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 sur 24. Au revoir.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
La traite des personnes, également connue sous le nom d'esclavage moderne ou traite d'êtres humains, est un crime mondial rapportant plusieurs milliards de dollars et lié à des flagrants abus de droits de l'homme, prive les individus de leur liberté. Elle fragmente les communautés, menace la sécurité publique et nationale, fausse les marchés économiques et sape la primauté du droit. Elle nourrit la corruption, alimente d'autres activités criminelles et aide à financer des activités terroristes. L'Organisation internationale du travail estime que 24,9 millions de personnes en sont victimes dans le monde. 16 millions d'entre elles sont exploitées par le travail forcé, près de 5 millions par l'exploitation sexuelle et 4 millions par le travail forcé imposé par l'État. Aucun pays au monde n'est à l'abri de la traite d'êtres humains. Cela se passe dans tous les coins du globe, dans les domiciles, les usines, les hôtels, les fermes, les bateaux de pêche, dans d'innombrables endroits où l'on ne pourrait pas s'y attendre. La traite d'êtres humains a également lieu aux États-Unis. Cela signifie que si nous voulons combattre ce fléau, nous devons commencer chez nous. C'est pourquoi janvier est proclamé, par décision présidentielle, mois national de la prévention de la traite d'êtres humains. Le président Donald Trump a poursuivi cette tradition en déclarant dans sa proclamation que les trafiquants d'êtres humains exploitent leurs victimes en leur promettant une vie d'espoir et de plus grandes opportunités, mais ne les livrent qu'à l'esclavage. Au lieu d'accorder aux gens une vie meilleure, les trafiquants profitent sans juridiction du travail et de la peine de leurs victimes qu'ils forcent, par la violence, par l'intimidation, à travailler dans des maisons closes et des usines, dans des fermes et sur des bateaux de pêche, dans des maisons privées et des nombreuses industries. Le président a également souligné que pendant le mois national de la prévention de l'esclavage et de la traite d'êtres humains, nous nous engageons à éradiquer le fléau de l'esclavage. La traite d'êtres humains est une forme moderne de type d'exploitation le plus ancien et le plus barbare. Il n'a pas sa place dans notre monde. Ce mois-ci, nous ne pensons pas simplement à cette effroyable réalité. Nous nous engageons également à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour mettre fin à l'horrible pratique de la traite d'êtres humains qui afflige d'innocentes victimes dans le monde entier.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.